Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er février 2017 et c'est Clotilde Say qui vous accompagne et vous présente ses par actualités du jour. Avec en titre Radio de Québec, l'heure est à la prudence, le troisième sommet québécois sur la sclérose en plaques, l'Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière. Il sera également en question de l'Association de parents d'enfants trisomiques 21 de Lanaudière, la PETL, un organisme à part entière. Une chaire de recherche sur la sclérose en plaques verra le jour à l'Université de la Saskatchewan au mois de mars. Et puis peut-être avez-vous entendu parler de cet enfant enfermé depuis un an en Utah, aux États-Unis. Il souffrirait d'autisme. Et comme chaque jour, deux entretiens. D'abord avec Dany Lucier-Desrochers, professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières au sujet de cet appartement intelligent qu'on est en train d'y créer. Et également avec Mathieu Franqueur, agent de mobilisation du mouvement FAS, au sujet des mobilisations à venir. Alors, Radio de Québec, c'est d'après un texte de Louise Leduc dans la presse qui dit, d'ailleurs là, ce n'est pas elle qui s'exprime, mais bien Dominique Payette, professeur au département d'information et de communication de l'Université Laval, qui est assommé, hein, comme nous toutes et nous tous, par l'attentat survenu dimanche à la mosquée de Sainte-Foy. J'ai sonné l'alarme en 2015, a-t-elle dit, mais comment isoler la radio parmi toutes les variables qui ont pu influencer le geste d'Alexandre Bissonnette? En 2015, elle a signé un rapport sur les médias de Québec et surtout sur les radios de la capitale qui a fait grand bruit et qui lui a valu une volée de bois vert. Elle écrivait alors « Parmi les groupes ciblés systématiquement, les personnes assistées sociales, Radio-Canada et les services publics, les musulmans pratiquants, les autochtones, les artistes, les intellectuels, les personnes handicapées, les groupes communautaires, les féministes, les fonctionnaires du gouvernement du Québec, les représentants du mouvement étudiant. » Mais hier, Dominique Payette n'avait que des questions et pas de réponses. Qui sait? Alexandre Bissonnette aurait-il pu tout aussi bien viser les femmes, des gens dans un congrès syndical? S'il ne plaide pas coupable et s'il y a procès, on en saura davantage. Mais là, à chaud, point de suspension. Pendant qu'ils étaient la cible de nombreuses critiques et que les amateurs et les animateurs étaient en mode défensif, les dirigeants des stations de Québec ont préféré se montrer discrets. Le prochain sommet québécois sur la sclérose en plaques, on y trouvera ici des spécialistes de renommée mondiale dont les travaux sont porteurs d'espoir afin de dresser un bilan des progrès de la recherche sur toutes les formes de SP, donc de sclérose en plaques. La division du Québec de la Société de la sclérose en plaques présentera le 8 avril 2017 son troisième sommet québécois sur cette maladie. À cette occasion, des spécialistes et des éminents chercheurs mettront en commun leurs connaissances approfondies sur la sclérose en plaques. Et parmi les thèmes qu'ils aborderont, mentionnons la greffe de cellules souches, les nouvelles options thérapeutiques qui pourraient être offertes dans un avenir rapproché, la sclérose en plaques pédiatrique ainsi que l'alimentation et l'exercice. Des chercheurs de la nouvelle génération seront également présent. Alors prenez part à cet événement unique, c'est entièrement gratuit et vous pouvez vous inscrire dès maintenant en passant par le site Sommet SP, sommet au singulier suivi de SP, tout ça en minuscule, .ca/inscription. C'est un sujet qui m'avait passionné lorsque j'en ai parlé assez récemment, puisque ça a donné lieu à quelques papiers. C'est cet appartement dit intelligent. Eh bien, j'ai au téléphone Dany Lucier-Desrochers, qui est professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est à vous que l'on doit ça, monsieur Lucier-Desrochers, cette très bonne idée?
Oui, eh bien, bonjour. Oui,
bonjour.
Bonjour, c'est effectivement un projet sur lequel on travaille depuis des années, ce projet d'appartement intelligent, en fait, depuis près de 10 ans maintenant, à développer ce modèle résidentiel-là pour les personnes.
Alors, donc, pour les personnes qui sont en perte de mobilité ou qui vivent avec une déficience, à tous les niveaux, hein, vous travaillez vraiment pour les gens, hein, d'ailleurs, vous le précisez bien.
Oui, absolument.
C'est pas la technologie qui vous intéresse en premier lieu, là. C'est le fait de pouvoir rendre service à du monde.
C'est exactement. C'est les personnes qui sont au centre de nos préoccupations. En fait, on travaille beaucoup avec les personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Par contre, les modèles qu'on développe résidentiels pourront être utilisés auprès de plusieurs clientèles là, qui ont des difficultés avec l'accès à ce milieu-là. En fait, moi, j'ai développé ça parce que ça venait d'une demande et de préoccupation en discutant avec des personnes qui présentaient une déficience intellectuelle. Plusieurs me disaient leur projet, leur rêve, c'était d'aller vivre en appartement. Mmh. Ils voulaient réaliser ce rêve-là parce que la vie en appartement, c'est un marqueur d'indépendance, c'est un marqueur d'autonomie, c'est quelque chose d'important dans nos vies.
Mmh.
Et les personnes me disaient, on veut aller vivre dans ces milieux-là. Les parents, les proches avaient aussi cet intérêt-là. Mais vivre en milieu résidentiel, c'est complexe. Hein? Faire des tâches, cuisiner, entretenir, prendre nos médicaments, c'était très complexe. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de me dire, comment je peux aider les personnes à les soutenir dans la réalisation de cette tâche-là, puis les aider à réaliser leurs rêves. Et la solution technologique est arrivée avec les développements actuels. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Et donc, on s'est dit, on va utiliser ces technologies-là auprès des personnes pour rendre les milieux de vie stimulants, sécuritaires, qui favorisent une belle qualité de vie, qui favorisent l'épanouissement. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on travaille.
Oui, je me souviens d'ailleurs avoir parlé à un moment donné avec une maman d'une enfant trisomique, enfant adolescente, et qui me disait qu'elle avait, sur son cellulaire, elle pouvait activer sa serrure de porte.
Absolument. C'est une des technologies parmi qui sont disponibles. On a même des technologies qui nous permettent de voir sur notre téléphone intelligent si on a laissé un appareil ou qu'on aurait oublié quelque chose dans la maison. Par exemple, on part le matin, on a oublié notre fer à repasser. C'est une situation potentiellement dangereuse. Mais on peut regarder sur notre téléphone intelligent si l'appareil est allumé et même l'éteindre à distance, peu importe où on est dans le monde. Alors, la personne peut le faire elle-même ou un parent, un proche pourrait le faire si jamais elle voit un danger potentiel.
J'imagine qu'à ce moment-là, bon, avec une maison intelligente comme ça, le téléphone intelligent, là, c'est pas le temps de le perdre, hein?
Non, effectivement. Parce que, puis en plus, c'est l'avantage. Hein. Il y a eu des développements, je vous disais que ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, puis il y a eu des développements énormes en lien avec la place du téléphone intelligent dans nos vies. Et ce qui est intéressant avec le téléphone, c'est qu'il nous suit partout. Oui. Alors, on pense à la maison intelligente, puis là, on pense beaucoup au modèle de ville intelligente aussi actuellement. Mais ville intelligente, c'est une maison intelligente dans une ville intelligente. Alors, pour faire ça, bien en fait, la personne a beau utiliser son téléphone intelligent pour faire les tâches dans sa maison, pour l'aider, mais après ça, elle en a besoin pour prendre les transports en commun, aller faire l'épicerie, aller à la caisse chercher des sous. Ce téléphone-là, il devient un petit peu le meilleur ami de la personne. Il est là pour le soutenir, c'est un compagnon bienveillant qui accompagne la personne dans toutes les dimensions de sa vie, puis qui la soutient dans la réalisation de ses tâches.
Monsieur Lucier Desrochers, je voudrais que vous nous donniez quelques exemples de ce que la technologie peut faire dans un appartement intelligent pour aider une personne qui vit avec une déficience.
Mais en fait, l'appartement, il peut faire trois grandes catégories d'activités. D'abord, il peut assister la personne. Oui. Assister la personne dans la réalisation de ses tâches, on en a parlé tout à l'heure, faire la cuisine, par exemple, ou même l'assister quand il y a une situation d'urgence qui arrive. Mm-hmm. Alors, ce qu'on se dit, c'est sur les téléphones intelligents, on peut intégrer des applications qui permettent de présenter étape par étape, avec des photos, des vidéos ou même des indications sonores, toutes les étapes pour faire une recette, par exemple. Alors, c'est une façon, d'utiliser. Alors, on a développé une application qui s'appelle Marty, une application qui permet de prendre des photos directement dans la maison de la personne et de la citer étape par étape. Alors, ça favorise l'autonomie. Mais on n'est pas obligé nécessairement d'avoir un téléphone intelligent parce que c'est ça qui nous distingue, nous, c'est l'utilisation des technologies disponibles sur le marché. Alors, pourquoi pas utiliser un cadre photo numérique qu'on utilise, nous, pour mettre nos photos, mais qui, pour une personne présentant une déficience intellectuelle, pourrait faire la différence dans son milieu de vie. Alors, au lieu de mettre des photos, pourquoi on ne mettrait pas les photos pour faire une recette, les étapes pour réaliser une recette? Alors, ça pourrait, pour moins de 100 $, faire la différence dans la vie de la personne. Et on pourrait prendre un cadre photo, l'amener dans la salle de lavage et mettre les photos pour faire du lavage, dans la chambre pour montrer les étapes pour faire son lit. Alors ça fait partie d'un des éléments d'assister la personne.
Est-ce que ça marche pour les adolescents aussi?
Ah oui, absolument. Donc, on pourrait l'essayer.
On pourrait l'essayer.
On peut étendre à différentes personnes. Alors, même pour les adolescents, ça pourrait fonctionner. Alors, il y a cet élément-là. Le deuxième, c'est vraiment l'accompagnement, par exemple, pour assurer la sécurité et la santé de la personne. On pense, par exemple, à la prise de médicaments. J'ai fait une étude il y a quelques années. J'avais demandé aux personnes présentant des déficiences intellectuelles comment elles géraient la prise de médicaments dans leur quotidien. Et elles m'ont dit quelque chose qui m'a fasciné, qui m'a fait peur à la fois. Elles m'ont dit, quand j'oublie de prendre mes médicaments, il arrive qu'à la fin de la semaine, je réalise ça et que je prenne tous mes médicaments que j'ai oublié de prendre la même journée. Ça fait peur. Alors, à partir de là, on se dit, un pilulier intelligent peut faire une bonne différence pour la vie de la personne. C'est un pilulier, en fait, qui envoie des avertissements. Si jamais la personne excède la dose dans sa journée, bien, elle envoie un signal, puis peut même envoyer un message texte à un parent ou quelqu'un qui pourrait aider la personne. Alors, ça, c'est un élément. On peut avoir aussi, concrètement, là, on peut faire des chemins lumineux dans la maison.
Oui.
Par exemple, si le système d'alarme se déclenche ou l'alarme d'incendie se déclenche, on pourrait faire un chemin lumineux qui guide la personne vers la porte.
Aussi.
Alors, ça peut être ça.
Oui, une poire de douche qui nous indique quand la température est trop chaude.
Absolument, il y a des gens qui ont des problèmes de sensibilité. Et donc, nous, c'est des technologies qui sont disponibles sur le marché. Tout ça, là, on pourrait aller demain matin dans une quincaillerie, c'est ça notre objectif. Quincaillerie, grande surface, ces technologies-là sont là et elles sont disponibles. Il faut juste les connaître.
Exactement.
Et donc, c'est notre travail à faire ça aussi.
Eh bien, écoutez, bravo. Alors, à quand un robot qui va nous faire la cuisine?
On travaille là-dessus aussi.
Je m'en doutais.
Et donc, on essaie de le faire, mais dans une perspective d'autonomie. Alors, pas un robot qui va le faire à la place de la personne, mais un robot qui va nous dire comment le faire. C'est encore mieux.
Ah, OK. Ben écoutez, vraiment, tout ça est très passionnant, Monsieur Lucier Desrochers. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Et tout cela est passionnant. J'aurais souhaité qu'on ait un petit peu plus de temps pour en parler, mais c'est la vie de la radio, que voulez-vous.
Ça m'a fait plaisir.
D'accord, merci beaucoup et passez une belle fin de journée.
Au revoir.
Au revoir. Par actualité régionale maintenant, l'Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière, l'APHVL, qui concentrait ses activités au sud de la région ces dernières années, dessert de nouveau les citoyens du Nord depuis quelques mois. On répertorie environ 137 000 personnes vivant avec un handicap visuel au Québec, dont 16 670 adultes et 235 enfants dans Lanaudière, selon l'Office des personnes handicapées du Québec. Bien que les MRC du sud de la région soient plus populeuses, le président de l'APHVL, oui, M. Robert Valois, estime que les besoins sont tout aussi grands au nord qu'au sud, bien sûr. Il est lui-même complètement aveugle. On essaie d'aller chercher de l'argent pour élargir notre offre de services, idéalement pour desservir convenablement la région en entier. Il faudrait que notre budget double, mais même si on ne réussit pas à aller chercher plus, on va se débrouiller avec les moyens que nous avons, explique l'homme originaire de Berthierville lors d'un point de presse tenu le 30 janvier. Soulignons que l'association a principalement pour mandat de briser l'isolement chez les personnes handicapées visuellement, notamment par le biais de cafés-rencontres et de diverses activités de rassemblement. On n'a pas un énorme budget, mais on en fait une saine gestion, ce qui nous permet d'élargir nos services et aussi on va travailler très fort pour aller se chercher le plus de bénévoles possible, d'ajouter M. Valois, à qui on souhaite bonne chance, bien évidemment. Dans le journal La Revue, l'hebdo des gens d'action, on nous parle de l'APETL. Nous restons dans la région de Lanaudière ce matin. L'APETL, un organisme à part entière, écrit Gilles Fontaine. Depuis 1990, l'Association de parents d'enfants trisomiques 21 de Lanaudière, l'APETL, est vouée à la qualité de vie des enfants trisomiques et de leurs familles. En fin d'année 2016, le travail de cette association a été reconnu par l'Office des personnes handicapées du Québec lors de la remise du prix à part entière 2016. L'APETL s'est vu remettre par l'Office un certificat d'honneur à titre de finaliste dans la catégorie organisme à but non lucratif. Ils sont 4 organismes québécois à avoir reçu cette mention. C'est tout un honneur pour nous. Il s'agit quand même d'un prix provincial. Ça demeure une très belle reconnaissance. Nous avons reçu beaucoup d'appui du milieu et de très beaux témoignages en notre faveur. Or, se faire reconnaître par les gens d'ici en plus, c'est doublement honorifiant. graphique, s'est réjouie Chantal Lamarre, la directrice générale de l'organisme de Mascouche. Ça confirme la crédibilité de notre organisme et ça souligne la qualité de l'implication de notre personnel et de nos membres, ajoute-t-elle. Le prix à part entière vise à rendre hommage à des personnes et à des organisations qui font preuve d'un engagement exemplaire afin de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées du Québec. Les candidatures ont été évaluées à partir de 4 critères, soit la pertinence, l'impact, le partenariat et la collaboration, ainsi que l'originalité. Il s'appelle Mathieu Francoeur, il est agent de mobilisation au mouvement FAS que nous connaissons bien ici à Canalem, mais que vous ne connaissez peut-être pas encore. Alors je vais déjà demander à Monsieur Francoeur de nous rappeler quelle est la mission de cet organisme, mais avant je vais le saluer. Bonjour Mathieu Francoeur.
Bonjour Madame Fay, ça va bien?
Ça va très très bien, et vous-même?
Bien certainement.
Bon, dites-nous, rappelez-nous en quelques mots, parce que ça vaut toujours la peine, la mission de FAS, s'il vous plaît, de cet organisme.
Oui, le mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, mm-hmm. coalition pour une action collective du milieu des personnes en situation de handicap. Mm-hmm. On travaille avec les personnes et les groupes en déficience intellectuelle, déficience physique et en autisme. Et c'est vraiment une action collective donc de mobilisation, d'éducation populaire et de campagne de pression pour avoir des meilleurs services en santé et services sociaux. Donc, pour faire pression pour qu'il y ait plus d'accès aux services. Entre autres, les listes d'attente, les délais, mm-hmm. Les réductions de services, que ce soit bon, en santé et services sociaux, dans le réseau et dans tout ce qui est autour du réseau de la santé. Donc, on mobilise le milieu, dans le fond, par toutes sortes de façons, par des actions comme des manifestations, mais aussi par des lettres ouvertes, mm-hmm. par de l'information pour sur les droits des gens, entre autres. Donc, autant avec les personnes, les familles et les groupes communautaires.
Et là, justement, vous lancez un appel à la mobilisation pour le 7 février sous une forme franchement créative.
Oui.
Les cartes quotidiennes, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien, rapidement, juste rappeler aux gens qu'on a le milieu communautaire s'est beaucoup mobilisé à l'automne dernier faire pression pour le financement, la reconnaissance, l'autonomie du milieu communautaire. Mm. Donc, il y a eu 3 jours d'activité au mois de novembre. La suite, c'est en ce moment jusqu'au 7 février. 7 février, il y a une action à Montréal et Québec, une action d'éclat à laquelle les gens peuvent participer aussi. Et on a décidé, ça se faisait cette année, ce mois-ci, sur le thème du Monopoly.
Donc les cartes.
Oui, c'est ça, on a vu l'idée. Donc les cartes malchance et les cartes chance, si vous voulez.
Oui.
Donc il y a des perdants, il y a des gagnants malheureusement. Le communautaire et les gens qui ont besoin de services du communautaire et de défendre leurs droits sont souvent les perdants dans les mesures, dans les périodes d'austérité ou de compression. Donc on fait circuler sur Facebook depuis 2 semaines et jusqu'au 7 février, à chaque jour, une carte soit malchance, par exemple coupure dans tel secteur, ou une carte trésor du communautaire. Si vous avez un problème, par exemple, de budget, allez voir une ASF près de chez vous, par exemple. Donc, les gens on encourage les gens à faire circuler par Facebook à chaque jour, vers 9h le matin, une nouvelle carte apparaît qui est destinée à interpeller M. Letao, ministre des Finances.
Ah.
Donc, on encourage les gens à aller sur le site, soit de Engagez-vous pour le communautaire, le site national.
D'accord.
La page nationale Facebook, pardon, ou la page à Montréal, c'est le groupe Le Fraca qui organise les mobilisations, Front d'action pour l'action communautaire autonome de Montréal.
Oui.
Donc, Fraca Montréal ou Engagez-vous pour le communautaire, les gens peuvent trouver les photos et les cartes sur Facebook et les faire circuler dans leur réseau.
Ah, mais ça, c'est certain que je vais aller là, mon ami, pour partager cela. Mathieu Francoeur, quels sont les principaux dossiers à suivre en ce moment ou dans les semaines ou les mois à venir pour le FAS?
Bien, au niveau santé et services sociaux, qui est notre principal mandat, c'est sûr qu'on continue à observer, à être vigilant par rapport à la réorganisation du réseau de la santé, toutes les suites des projets de loi et ceux qui s'en viennent au niveau de l'accès.
Mm-hmm.
Dossier plus particulier, soutien à domicile. Il devrait y avoir une consultation nationale au mois de février avec des annonces de fait de réinvestissement pour le soutien à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Donc, on surveille ça. Soutien à la famille aussi en déficience intellectuelle. Les budgets sont assez fragile. Il y a des nouvelles normes, il y a des parents qui se font pénaliser, donc on surveille ça aussi. Il y a la nouvelle mesure aussi d'urgence pour les enfants lourdement handicapés que beaucoup de monde a appliqué et que peu ont obtenu de réponses positives pour l'instant. On surveille ça. Et tout le dossier de l'accès au niveau des frais accessoires, évidemment, qui sont officiellement illégaux et interdits, mais on reste vigilant parce qu'il y a tellement de... c'est assez complexe comme dossier. Il y a tellement d'intervenants qui peuvent intervenir là-dedans. Donc, on garde une vigile là-dessus.
Ben oui, puis vous avez raison, parce que je parle même autour de moi. J'ai eu des gens qui, en ce moment, ont eu à payer des frais accessoires. Alors, évidemment, ils se posaient la question. Ils disaient, mais attendez, là, pourquoi je paye ça? En principe, c'est pas en train de disparaître, ça?
C'est ça. On a eu beaucoup de flafla là-dessus, d'annonces et de spectacles un peu dans les médias, les négociations, tout ça. Mais les gens peuvent encore, soit s'ils se sentent lésés, soit appeler un groupe qui peuvent défendre leurs droits, ou sinon aller au Collège des médecins, par exemple, ou aller aussi au commissaire aux plaintes, dépendamment où ça se passe, pour faire plainte. Et en général, les gens sont remboursés. Mais là, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit vraiment normalisé et qu'il n'y en ait plus ou qu'il n'y en ait plus du tout partout au Québec.
Mathieu Francoeur, comment on peut aider le FAS en ce moment?
Ben le FAS, peut-être suivre notre page Facebook, notre site Internet, et puis participer aux appels à la mobilisation, que ce soit l'envoi d'une lettre, par exemple, ou d'une carte Monopoly, ou de participer aux différentes actions qui s'en viennent dans les prochains mois.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, je vous remercie de m'avoir invité encore une fois.
Mais ça nous fait très plaisir et on aura l'occasion de vous réentendre sur les ondes, c'est certain.
Merci beaucoup.
Bonne journée, Mathieu.
Au plaisir.
Au revoir. Actualité nationale, ça nous vient de ici Radio-Canada, Saskatchewan. Une chaire de recherche sur la sclérose en plaques verra le jour à l'Université de la Saskatchewan au mois de mars grâce à un investissement de 8,4 millions de dollars. Les fonds proviennent du Collège de médecine de l'Université de la Saskatchewan, la fondation de l'hôpital City de Saskatoon, la fondation de recherche en santé en Saskatchewan, la Société canadienne de sclérose en plaques et l'autorité régionale de santé de Saskatoon. Les recherches visant à comprendre la maladie s'étaleront sur 7 ans. Le neurologue et professeur au Collège de médecine de l'Université du Tennessee, Michael Levin, dirigera l'équipe de scientifiques. 2 médecins et 3 infirmières épauleront ses efforts. Dans le cadre de la recherche, ils feront appel à des patients volontaires atteints de la maladie pour analyser leur ADN à partir d'échantillons de sang. En 2016, un comité consultatif mandaté par la Saskatchewan a émis 9 recommandations au gouvernement sur l'amélioration des soins et de la recherche relativement à cette maladie. D'après le député provincial de Saskatoon Université, Eric Olosson, l'investissement répond ainsi à la recommandation de recruter des neurologues et de former des spécialistes permettant de faire des avancées dans le domaine de la sclérose en plaques. Selon le Collège de médecine de l'Université de la Saskatchewan, de 3500 à 3700 personnes sont atteintes de la maladie dans cette province. La sclérose en plaques est une maladie dégénérative. Elle survient alors lorsque le système immunitaire s'en prend au système nerveux central. La perte de coordination et d'équilibre ainsi que des problèmes de cognition et de vision font partie des symptômes. La Françaiscoise Sylvie Bergeron, atteinte de la sclérose en plaques mais dont les symptômes sont minimes, se réjouit de l'investissement. Elle affirme qu'il est important de poursuivre les efforts pour démystifier cette maladie. Toute recherche qui peut faire avancer les connaissances qu'on a en ce moment sur cette maladie-là, c'est une bonne nouvelle de dire Madame Bergeron. Et elle ajoute qu'elle pourrait bien se porter volontaire comme patiente pour participer à l'étude. Actualité internationale maintenant, c'est d'une tristesse infinie. Ce que j'ai trouvé ici, c'est par TVA Nouvelles que l'information est sortie. On parle d'un enfant en Utah qui aurait été enfermé depuis 1 an et qui souffrirait d'autisme. L'avocat de la mère qui aurait laissé son garçon enfermé dans une salle de bain pendant plus d'une année a tenté d'expliquer l'inexplicable dans une entrevue accordée au Salt Lake Tribune. En vue d'être embarré, en plus d'être embarré dans la salle de bain, le garçon de seulement 12 ans aurait subi de graves sévices infligés par sa propre mère, Brandy K. Janes. Lorsqu'il a été retrouvé par son père, le garçon ne pesait que 30 livres. Il souffrait de malnutrition extrême. Il était, semble-t-il, si faible et si maigre et affaibli qu'il était incapable de se tenir debout. La femme de Tuckerville en Utah fait face à des accusations de graves abus d'enfants. Elle aurait confié à son avocat qu'elle était littéralement prise au dépourvu par son garçon aux besoins très particuliers. C'est le père du garçon qui l'a découvert gisant sur le plancher de la petite pièce barrée à double tour le 8 janvier. Il ne vit pas avec l'accusé. La mère de 36 ans s'occupait également de ses deux autres enfants et ceux-ci n'auraient pas été victimes d'abus. L'avocat de Brandy K. James a toutefois expliqué que le garçon a des besoins très particuliers et qu'il n'a jamais été diagnostiqué. Selon maître Edward Flint, le comportement du garçon lui rappelle étrangement celui de son propre fils, qui est autiste. Elle n'est pas une mauvaise personne, dit-il en parlant de l'accusé. Elle n'a jamais voulu tuer son fils. Elle était tout simplement à bout de ressources. Selon les dires de l'avocat, l'enfant n'a pas fréquenté l'école depuis au moins 3 ans. Les autorités scolaires ont évalué le garçon quant à savoir s'il était autiste, mais les résultats n'ont jamais abouti. Pour une raison inconnue, elle n'a jamais cherché à obtenir de l'aide, ajoute maître Flint. L'avocat indique également que le père du petit était au courant des conditions dans lesquelles l'enfant vivait. Aucune accusation n'a toutefois été déposée à son endroit pour le moment et l'enquête est toujours en cours. Que nous parlons autisme, voici l'agenda devrais-je dire, autisme Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, à 19h, il y a une rencontre du groupe Parents TED Débrouillard. Ça se passe à la Maison du Tournant, au 289 2e Avenue, au lac Kitchemin. Si vous êtes intéressé, j'ai un numéro de téléphone pour vous. C'est évidemment dans le 418, dans le 625-4700. 418-625-4700. Le 5 février, de 11h à 17h, on le présente, les chevaliers de Colomb du Conseil de Saint-Roch-des-Aulnais présentent leur tournoi de quilles annuel. Ça va se passer à la quillathèque de la Pocatière. C'est dans le cadre des activités pour la cause colombienne 2017, qui est l'autisme. J'ai encore un autre numéro pour vous, les renseignements. C'est dans le 418-354-2573, dans le 418-354-2573. 13 février maintenant, la rencontre du groupe Parents de Fars, P-H-A-R-S, qui va se dérouler au 6150 rue Saint-Georges, au patro de Lévis. C'est le local 166 pour être encore plus précise. Alors, les thématiques de la rencontre, droits et obligations scolaires. Et vous êtes obligés là aussi de confirmer votre présence en passant par le numéro suivant, 418-838-4922. Et enfin, le 18 février, rencontre du groupe de parents ayant un enfant adulte autiste de l'AIS Beauce-Sartigan. Ça va se passer au CISSS, au 125-25e avenue, pardon, à Saint-Georges. Voilà, ainsi s'achève l'émission Les Paractualités en ce 1er février 2017. C'était Clotilde Sey qui remercie une nouvelle fois son équipe et qui vous remercie, vous, d'avoir été présent de l'autre côté des ondes. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, à 11h30.